s'est entendu à dernière nouvelle. L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Comment ça va, mon Ren?
Ça va bien, ça va mieux que toi, ça c'est certain, avec tes Ravens. Je vais pas tourner le fer dans la plaie.
Fallait que t'ailles là en partant, hein?
Oui, en partant, mais c'est parce que je veux juste te rassurer.
Oui.
C'est la première fois, ils ont combien de verges au sol? 250 faciles?
Facile.
Ah oui.
OK. Par la passe, on dépasse de 300 verges, ou à peu près?
Oui.
Peut-être pas, on est peut-être à 250 aussi. Mais peu importe, c'est la première fois de l'histoire de la NFL qu'une équipe perd avec ce genre de situation-là, où on domine offensivement dans toutes les facettes du jeu, que ce soit par la course, par la passe. Puis, moi, je regarde la fin de cette rencontre-là, puis je me dis une seule chose, les Bills ont été extrêmement chanceux de gagner ce match-là. Ça me fait penser, puis je sais que les gens vont exagérer, là, puis je ne veux pas comparer les deux, là, mais quand les Oilers ont battu les Panthers dans le match numéro 4, c'est une marche dans le parc pour les Panthers. Les Oilers reviennent, gagnent la rencontre. Ça veut-tu dire qu'ils gagnent la série? Non. Moi, je pense, puis je vais te réconforter, je pense que c'est la dernière fois que les Ravens perdent un match contre les Bills cette année.
C'est de l'adversité en partant. C'est une manière de mieux s'ajuster en vue du reste de la saison. Et Renaud le disait, là.
Ouais.
Et je rappelais la statistique en début d'émission. Renaud, les équipes avant ça, là, avec les statistiques que tu as données, étaient 277-0.
Voilà. Écoute, c'est impossible. C'est impossible. Ce qui s'est passé hier est impossible. Ça veut dire, tu comprends, là, les joueurs des Bills, après ça, qui se disent, hey, on a réussi quelque chose d'impossible. Oui, vous avez raison. Célébrer. Mais ça a été une très, très mauvaise rencontre pour les Bills en bout de ligne. Je sais pas tu sais, quand tu marques un toucher parce que le ballon a été tippé, il y a un wide receiver, receveur de passe qui arrive, puis qui plonge, qui réussit à aller chercher le ballon, là. C'est comme, c'est quoi les chances que ça arrive? Mettons que tu le pratiques, là.
Je pensais que tu arrivais avec la claque au visage, mais tu es arrivé avec la claque dans le dos et je l'apprécie, mon cher ami. C'est bien gentil.
Non, c'est tout un club de football, les Ravens. Je n'ai pas changé mon plan. Ils vont gagner le Super Bowl.
On a hâte de voir le tien en action ce soir, mais on s'en reparlera en fin d'intervention.
Dieu, avec J.J. McCarthy comme corps arrière, les Vikings, tu penses qu'ils vont gagner? Tu penses vraiment que les Vikings ont une chance?
Non.
Moi, ça me fascine, le football.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, mais c'est parce que j'écoute tous les experts des. J'écoute tous les experts. Les Vikings sont bons, ont été écœurants, un des meilleurs clubs de la ligue. Êtes-vous fou? Les as-tu vu jouer dans les games hors concours?
Non. Moi, je prends les Bears pour gagner ce soir.
Mais, selon les preneurs au livre, les Vikings sont favoris. Par 1,5.
Pas juste un peu. Je comprends qu'ils sont juste par 1,5 parce que le match est à Chicago. Mais dans la NFL, il y a comme un mouvement présentement que les Vikings sont meilleurs que les Packers. Probablement que les Lions sont genre meilleurs que tout le monde. Là. Prenez votre gaz égal. Là. Les Vikings, ce soir, vont trouver ça très difficile.
Je suis 100% d'accord. C'est vrai, les Vikings, 1,83 pour gagner. Ouais. Et les Bears, 2. On va vérifier ça dans notre segment en fin d'émission FX. Parce que, Ren, tu as eu plus de dossiers, plus de détails, c'est-à-dire dans le dossier du contrat de Connor McDavid. Rappelons les faits, là, quand on en discutait les trois ensemble, FX, toi et moi, vendredi, il avait dit dans sa disponibilité média, dans une pratique comme ça, avant le camp, c'est un peu bizarre comme environnement, on en conviendra, qu'il pourrait avoir un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans ou...
Mais 9 ans, ça se peut pas, là. Non, ça arrête à 8.
Non, mais lui, il a dit 9 dans sa dispo. Il a
en plus,
ça,
ouais.
Et il a dit ou 0, pas d'année.
Exact. Ou pas d'année, c'est ça. Ou 0 année. Écoute, c'est quelque chose que tu peux pas laisser passer, là, parce que dans la Ligue nationale, d'après moi, ça va être le gros sujet de conversation. À l'heure où on se parle, présentement, il n'y a aucune indication que Connor McDavid est sur le point de signer une entente avec les Oilers d'Edmonton. Pourquoi? Parce que Connor McDavid, on en a glissé un mot, mais j'ai fouillé un peu plus le dossier, c'est que il pense que les Oilers de cette année sont très, très bons. Mais son inquiétude, c'est les Oilers dans 3 ans. Ils vont être vieillissants. Il n'y a pas vraiment de relève. Il n'y a pas vraiment de joueurs non plus qui sont attirés à aller jouer quand t'es joueur autonome sans compensation, à aller jouer à Edmonton. Et lui, sa grande question, c'est de se dire, dans 3 ans, on ressemble à quoi? comme club d'hockey. Et il ne veut surtout pas, sachant qu'il n'arrête pas d'essayer de gagner cette fameuse coupe, ne veut pas se retrouver dans une situation à la Sidney Crosby où il est dans une équipe qui gagnera plus grand-chose dans peut-être 2 ou 3 saisons. Imagine-toi comment sa place, la direction des Oilers, Jeff Jackson, son ancien agent qui est président des opérations hockey, Stan Bowman, le directeur général. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le bon argument que tu peux donner? Comment tu peux prouver à Connor McDavid que l'équipe dans 3 ans va être extrêmement compétitive et encore une chance de gagner la Coupe Stanley? C'est impossible.
J'essaie de trouver une raison et il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, à part de dire, ben, si Connor t'es là, on a des meilleures chances. je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, je sais pas quoi d'autre te dire. Si t'es là, on a des meilleures chances que si t'es pas là.
En plus, mais, avec Léon, c'est ce qu'on peut dire.
C'est ça. Ça reste que moi, j'ai hâte de voir une chose. Bon, on s'entend que pour Connor McDavid, la vraie date limite pour signer une entente avec les Oilers d'Edmonton, c'est le 30 juin prochain. Parce qu'après ça, c'est le marché des joueurs autonomes qui s'ouvre. Pas besoin de te dire que du côté des Oilers, on veut pas attendre au 30 juin prochain. Mais dans la tête de Connor McDavid, il y a cette possibilité que ça dure très longtemps avant qu'il prenne une décision finale. On m'a expliqué que ça ne veut pas dire que les Oilers gagnent la Coupe, qu'ils signent une prolongation de contrat avec les Oilers, mais l'inverse est aussi vrai. Ça ne veut pas dire que les Oilers sont éliminés en deuxième ronde ou en première ronde, qu'ils ne signeront pas une prolongation de contrat avec les Oilers. Ça te donne-tu une idée comment on est dans un brouillard présentement? Ceci étant dit, moi, je me pose quand même une question très importante, qui est la suivante. On arrive à la date limite des transactions. Pour une raison quelconque, les Oilers bataillent pour une place en série. Ils ne sont pas encore en série. On s'entend, là, tout le monde, là, que la seule et unique façon que ça, c'est possible, c'est qu'il y a beaucoup de blessés chez les Oilers. C'est une équipe qui est évidemment très dangereuse encore et qui va faire les séries assurément. Mais admettons là, qu'il y a des choses qui se passent qui sont hors du contrôle des joueurs, de la direction. Puis on n'est plus en séries éliminatoires où on bataille et on n'a pas vraiment de chance de gagner la Coupe. Qu'est-ce qui arrive avec Connor McDavid? Est-ce que c'est là où les Oilers se disent « Non, non, toi, ta date limite pour signer une entente, c'est le 30 juin. Nous, la date limite pour signer une entente, c'est là. Il faut le savoir là. » Parce que on peut pas perdre Connor McDavid sans rien en retour. Un peu comme quand...
Marner a quitté les Leafs.
Marner, ils ont reçu quelque chose en retour.
Ils ont fini par avoir ça, quelque chose, mais ça a été... J'imagine que les coups de téléphone se sont pas super bien passés entre Vegas et Toronto, là, Renaud.
Ben, c'est parce qu'il y a eu... Ça, c'est une forme déguisée. Là. Il n'y aurait jamais dû y avoir de compensation pour Nicolas Roy.
C'est ça.
Mais je pense que du côté des Maple Leafs, on se disait qu'il y avait probablement eu du maraudage.
Exact.
Et que là, si vous voulez pas qu'on fasse une plainte pour maraudage, il faut qu'on s'entende tout de suite pour justement qu'il y ait une transaction. Vous nous donnez un joueur en retour qui est Nicolas Roy, qui est quand même pas un pied de céleri. Là. Nicolas, c'est un joueur de hockey puis qui est capable de connaître du succès. Puis en même temps, ça aidait les Golden Knights de se départir d'un contrat. Mais il y a d'autres situations où on a perdu des joueurs vedettes dans la Ligue nationale le 1er juillet sans aucune compensation et ça a fait mal. Et les Oilers ne peuvent pas se permettre de perdre Connor McDavid le 1er juillet sans rien en retour. Ça serait scandaleux. Un nom qui me vient en tête, c'est John Tavares, rappelez-vous, avec les Islanders.
Aussi, ben oui. En fait, si tu voulais réagir.
Non, mais moi, je me disais, si on a vu Mikko Rantanen l'an dernier être transigé, à ce moment-là, l'Avalanche était dans le portrait des séries éliminatoires, on a décidé de le transiger quand même. Si le dossier Rantanen s'est réglé avant la fin de la saison, ouais. Je ne sais pas pourquoi le dossier McDavid pourrait ne pas se régler avant la fin de la saison aussi.
C'est deux choses différentes, ça. Fait que je vais t'expliquer pourquoi. OK? Connor McDavid, là, on s'entend tous que ce n'est pas une question d'argent.
Non.
On s'entend tous que les Oilers d'Edmonton lui disent « Connor, dis-nous combien tu veux, dis-nous la durée de l'entente, puis la réponse, c'est tout de suite oui. » OK? C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est comme ça que ça va se régler quand Connor McDavid va décider. Dans le cas de Rantanen, c'est que l'Avalanche lui arrivait avec une entente à 9 millions, peut-être 10 millions. Lui en voulait 13, 14 dans les négociations. Puis l'Avalanche a dit non, oui, on veut pas payer ça. Bon, l'Avalanche, c'est pas le même. Denver, c'est pas le même marché qu'Edmonton. Ils ont des situations contractuelles qui sont différentes. Chaque équipe est différente, mais du côté, évidemment, l'Avalanche Colorado, je pense pas qu'on a été dans la bonne direction en faisant cette transaction-là. Je sais qu'on a été chercher des bons joueurs en retour, là, mais je pense qu'à quelque part, si on regarde les séries du printemps dernier, cette transaction-là n'aurait jamais dû avoir lieu. D'une manière ou d'une autre, le contrat de Rantanen là, aurait été payé dans une ronde supplémentaire des séries, puis c'est les Stars de Dallas qui en ont profité.
Exactement. T'as tout à fait raison.
J'essaie de voir le contrat de McDavid aussi concernant sa clause de non-échange, à quoi ça ressemble aussi, parce que Mitch Marner, il avait reçu des offres, les Maple Leafs, l'an dernier, et Mitch Marner avait décidé de...
Ouais.
Il avait refusé de lever sa clause de non-échange.
Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs fans des Maple Leafs qui étaient fâchés contre lui en disant « t'as refusé », mais lui voulait poursuivre sa carrière à Toronto. Là.
Mais il faut pas oublier non plus que sa conjointe était enceinte.
Aussi.
Donc, ça que tu veux ou que tu ne veux pas, là, c'est un... T'sais, c'est pas vrai, là. Que quand tu es un joueur de hockey, on est rendu au mois de mars, ta conjointe va accoucher dans les prochaines semaines, que tu vas être échangé en Caroline. Puis là, il faut qu'il y ait un nouveau deal avec la Caroline. Puis la conjointe, je veux dire, elle n'a plus le droit de voyager. Elle a, je veux dire, techniquement, ça n'a pas de sens comment sa grossesse est avancée. Ça veut dire qu'elle aurait accouché, entre guillemets, toute seule. Ça faisait aucun sens, je pense, pour la famille de Mitch Marner et pour Mitch Marner lui-même. Puis en bout de ligne, si les Maple Leafs avaient été peut-être plus actifs plus tôt, peut-être que ça aurait eu lieu, cette transaction-là. Mais on s'aperçoit, évidemment, que des situations familiales peuvent aussi avoir un impact dans les décisions. Puis Connor McDavid n'arrête pas de le répéter. C'est une décision qu'il doit prendre en famille. Donc, pour lui aussi, c'est pas juste lui qui décide. Il y a son épouse, il y a les membres de sa famille, comment il voit les choses, puis comment on veut justement s'assurer de prendre la bonne décision. Et peut-être que la bonne décision va être de signer un contrat de 8 ans avec les Oilers, mais ça va être la décision de Connor McDavid.
Ça va être le dossier chaud à suivre, certainement. Il y a d'autres joueurs, soit des joueurs autonomes avec restrictions qui n'ont pas encore signé, puis on le sait, dont on va suivre l'évolution des dossiers, mais avec la prestance et tout ce que Connor McDavid amène. C'est le meilleur joueur au monde. C'est sûr que ce dossier-là, on va en parler plusieurs fois par semaine jusqu'à temps que ce soit réglé. Merci, mon Ren. Bon temps à Vegas. On se reparle demain, même heure.
Salut. À demain, Craig. Salut, les gars. Salut, FX.
Salut, Renaud.